France Culture. Bonjour, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Après notre série Regardez Gaza en face au mois de juin, nous prenons le temps cette semaine de 4 heures sur Israël, à quelques jours des commémorations du 7 octobre 2023. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les douleurs ni de comparer les crimes, mais de comprendre ce que le 7 octobre a fait à Israël et dans quelle direction, qui semble inexorable, l'a emmené cet acte délibéré d'extermination. Ce jour où des hommes masqués du Hamas ont pourchassé, tué, démembré, calciné des Israéliens de quartier en quartier, de maison en maison. Ce jour-là, la plaque tectonique s'est fendue, écrit la journaliste Marie Semelin dans un premier roman qui vient de paraître, Les Certitudes. Elle était secouée, cette plaque, malmenée, des micro-fissures la rongeaient de mille façons, mais elle tenait. C'est fini, elle s'est détachée, il n'y aura pas de retour en arrière. Au massacre du 7 octobre a succédé la vengeance, soutenue par la grande majorité de la classe politique en Israël.
Nous mettons en place un siège complet de Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence.
Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en mission pour des générations. Il y a des générations de juifs qui ont rêvé d'être là. Et il y a des générations de juifs qui viendront après nous. Si vous me demandez si je me sens être comme en mission historique et spirituelle, alors la réponse est oui.
Depuis 1948, il n'y a jamais eu d'année plus décisive pour le destin de l'État. Si la coalition de Netanyahou remporte à nouveau les élections, ce sera la fin du sionisme, l'État s'effondrera. Nous sommes les seuls à pouvoir le sauver, c'est un moment de vérité.
Bien sûr, il faut se rappeler d'où viennent les descendants des Israéliens d'aujourd'hui qui arrivèrent d'Europe par milliers après la création de l'État en 48. Endeuillés, épuisés, beaucoup avaient passé des mois dans les camps de concentration où ils recevaient 200 calories par jour, moins que la balle nécessaire pour les abattre. À la fin, ils mangeaient l'herbe de la cour et condamnaient l'humanité entière et pas seulement les Allemands. Mais la phrase « plus jamais ça », on l'utilise maintenant contre les Arabes comme si chaque menace était un camp de concentration. Disait il y a quelques années déjà le réalisateur israélien Samuel Maoz, et les politiciens depuis longtemps ont préparé à la guerre éternelle. Nous vivrons toujours par l'épée, disait Benjamin Netanyahou avant même le 7 octobre. Alors quand des terroristes du Hamas déjouent les systèmes de sécurité et de surveillance et viennent tuer froidement 1200 Israéliens, dont la plupart étaient des jeunes, des femmes, des enfants, des hommes n'ayant aucune responsabilité politique ou militaire, voire pour certains prônaient la paix et la cohabitation pacifique avec les Palestiniens. C'est toute une classe politique qui bascule, déjà irriguée par des groupes suprémacistes et le mouvement sioniste religieux qui compte aujourd'hui 2 ministres en poste. Le gouvernement et le Parlement penchent désormais vers l'extrême droite tout entier et personne n'est là pour arrêter le massacre à Gaza, pas même à gauche, chez les travaillistes. Dans le journal Haaretz en 1988, le professeur Yehuda Elkana, survivant de la Shoah et historien, écrivait « Deux nations sont sorties d'Auschwitz, une minorité disant plus jamais ça et une majorité effrayée et anxieuse disant plus jamais ça pour nous. » Bonjour Nissan Perelman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et cofondatrice du site Yahani. Vous êtes également l'autrice d'un documentaire qui a paru sur Arte l'année dernière, Israël, les ministres du chaos, dont nous entendrons certains extraits dans cette émission. Bonjour Alain Dikoff.
Bonjour.
Bienvenue, merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, directeur d'un ouvrage collectif qui vient de paraître, Radicalité religieuse au pluriel, chez Albin Michel, dans lequel vous avez écrit le chapitre consacré à Israël, où il va paraître dans quelques jours, je crois, en octobre. Alors, Alain Dikoff, puisque l'Assemblée générale des Nations unies est encore récente, c'était il y a une semaine, la reconnaissance de l'État de Palestine par Royaume-Uni, Canada, Australie, Portugal et la France, est-ce qu'elle a déjà fait l'objet en Israël de discussions à la Knesset, de déclarations de tous les chefs des partis politiques ?
Disons oui, très clairement, cette reconnaissance a été très mal vécue. La classe politique l'a critiqué. Et il faut dire que les critiques ne sont pas venues uniquement de Benjamin Netanyahou, qui a dit que cette reconnaissance par les pays que vous venez de citer était une sorte de récompense pour le terrorisme du Hamas. Bon, évidemment, ce qui est un peu réducteur quand même. Mais on a aussi trouvé des gens plus classés à gauche qui, grosso modo, ont considéré que c'était soit pas le moment opportun, soit que en effet c'était que cette reconnaissance pouvait apparaître encore une fois comme quelque chose comme un acte qui donnait finalement une sorte de satisfaction entre guillemets au Hamas, qui est en même temps faux fondamentalement, parce que le Hamas n'est pas pour la solution à deux États, c'est ça qu'il faut dire. Le Hamas est contre l'État d'Israël, le combattu conteste sa légitimité, mais il n'a jamais adhéré à la solution des deux États, donc évidemment, comme je le disais, c'est extrêmement réducteur. Et grosso modo, oui, dans l'opinion publique, c'est plutôt aussi un sentiment d'incompréhension face à cette démarche, malgré les efforts de la France pour faire un peu de relations publiques, pour essayer de faire comprendre son geste, la portée de son geste, mais finalement avec peu d'effet.
La scène politique israélienne comme un seul homme, entre guillemets, Yigal Perelman, c'est vrai qu'il est question beaucoup d'hommes dans cette histoire, les responsables des partis politiques en Israël. Pourtant, la reconnaissance de l'État palestinien pourrait tout à fait correspondre au projet de ce qui était en tout cas la gauche sioniste encore il n'y a pas si longtemps, qui elle était pour une solution à deux États.
Alors c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, le nouveau leader de la gauche sioniste, Yair Golan, qui est issu de Meretz, donc c'est un parti même plus à gauche que le parti travailliste, dit cette reconnaissance de l'État palestinien est tout simplement très dangereux pour l'État d'Israël. Donc est-ce que ce surprenant? On peut pas le dire, parce que Yair Golan, il a appelé en octobre 2023 à affamer les Gazaouis. En septembre 2024, il appelle à ne pas accepter un cessez-le-feu. Et même 12 heures après avoir dit « l'État d'Israël tue des enfants pour le loisir », il dit sur la chaîne 12 israélienne « l'État d'Israël ne commet pas de crimes de guerre à Gaza ».
Yair Golan, c'est cet homme qui avait été remarqué juste après le 7 octobre pour l'énergie qu'il a mise à aller porter secours aux victimes. Il a même sans doute sauvé la vie de plusieurs Israéliens en les faisant monter dans leur voiture alors qu'ils tentaient d'échapper aux assaillants. Il s'est fait connaître, ou plutôt reconnaître à ce moment-là, parce que sa popularité était plutôt en perte de vitesse. Mais vous dites que quand quelqu'un comme lui, Yair Golan, dit dans un discours, en effet, sur la radio publique, dénonce, c'était au mois de mai, la façon dont Israël mène la guerre à Gaza comme s'il s'agissait d'un hobby, vous dites qu'on s'est un peu fait leurrer sur le côté pacifiste de Yair Golan quand il s'agit de parler de Gaza et du 7 octobre.
Exactement, mais toute la scène politique israélienne, depuis le début, je vais me permettre de parler de génocide parce que l'ONU parle de génocide, plusieurs organisations israéliennes et internationales parlent de génocide, donc je me permets d'utiliser ce mot aussi. Depuis le début du génocide, toute la classe politique israélienne, donc la classe politique de la gauche sioniste jusqu'à l'extrême droite, montre d'une manière ou une autre son soutien aux crimes que l'État d'Israël commet à Gaza. Mais ce qui est intéressant avec cette reconnaissance de l'État, c'est qu'on voit depuis le début du génocide ce sentiment de toute puissance, d'impunité totale. Et donc, même aujourd'hui, quand plusieurs États qui sont des alliés de l'État d'Israël qui déclare reconnaître l'État palestinien, oui, il y a quelques déclarations qui critiquent cette reconnaissance, mais ça ne change rien de manière essentielle. Parce que Netanyahou, il déclare oublier tout de suite de ça, un État palestinien n'existera pas. On oublie aussi qu'en juillet 2024, des membres de l'opposition et du gouvernement ont voté contre toute reconnaissance future d'un État palestinien, etc. Donc il y a un sentiment d'une impunité totale, et peu importe la critique internationale, et peu importe qui fait aussi le critique. La critique, cela ne va pas changer.
La critique internationale, parce qu'en effet, quand Yair Golan s'est dédié de ses premières déclarations, dénoncées d'ailleurs comme Benjamin Netanyahou, comme antisémite, de la part donc du leader du parti démocrate Yair Golan, qui disait que l'armée israélienne avait le hobby de tuer des enfants, il s'est dédié en disant notamment que sa prise de parole ne visait qu'à sauver l'image d'Israël. Voilà bien quelque chose dont se moquent Alain Dikoff, les deux ministres dont on parle toujours, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont d'une autre famille politique, toute autre famille, qui eux ne considèrent pas comme important l'image que Israël dégage à l'international, et qui eux ont appelé, dans la foulée de la reconnaissance de l'État de Palestine par tous les États qu'on a cités, à l'annexion de la Cisjordanie, au démantèlement de l'autorité palestinienne. Alors c'est pas la première fois. Est-ce que leur position à eux sont en train progressivement de faire consensus, ou on n'en est pas là?
Consensus, ça me paraît exagéré. Bien sûr, ils ont une influence, et on force est de constater que le gouvernement est rentré quand même dans une logique d'extrémisation assez claire, à la fois dans ses paroles et dans ses actes à Gaza. Mais je pense pas qu'on puisse aller jusque là. Et je me permets de ce point de vue de raccrocher un tout petit peu sur ce qui a été dit sur Golan. Je prendrai quand même un peu sa défense. Alors certes, vous avez
le
utilisé,
ministre, hein, pas le
oui,
plateau.
De Yair Golan, parce que donc le leader des démocrates, c'est quand même malgré tout dans ce spectre politique, le seul qui a une voix un tout petit peu critique. Alors, on peut le dire avec des ambiguïtés, c'est vrai, mais d'une part, il faut bien dire, c'est pas un pacifiste. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. Il a fait l'armée professionnellement.
Il a participé à l'invasion du Liban.
Donc
opération plus durcie.
Donc c'est pas un pacifiste, ça c'est sûr. Mais c'est quand même quelqu'un qui a, je trouve, dans le contexte qui est quand même un contexte, il faut le reconnaître, de l'opinion publique qui est quand même difficile, qui porte une parole critique pour laquelle il est lui-même dénoncé en Israël. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse quand même, tout petit peu pour nuancer sur la question de Yair Golan. Et donc pour revenir à votre question en effet sur la tendance, hein. Oui, ça c'est certain que les ministres extrémistes, donc Smotrich et Ben-Gvir en particulier, sont profitent finalement de tout ce climat très anxiogène et de guerre, pour finalement de plus en plus tenter de populariser leur message. Et quelque part, c'est vrai que ça a un certain écho, parce qu'on le voit avec des sondages qui ont pu être faits dans l'opinion publique par exemple, si c'était possible, est-ce que vous seriez favorable au transfert des Palestiniens, c'est-à-dire en gros à leur expulsion? Oui, ben oui, on en a aujourd'hui une majorité qui, sur le principe, serait favorable, en trouverait que ça pourrait être une idée, une solution. Bon, donc évidemment, ça, vous n'auriez pas trouvé des scores aussi impressionnants dans les sondages il y a 3 ans.
C'est vrai qu'il y a encore, même aujourd'hui, Nitzan Perelman, alors que les prochaines élections législatives sont censées avoir lieu dans un an, ça paraît infiniment loin, d'autant que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui nous raccroche à cette immédiateté-là, mais en Israël, on se projette déjà dans les élections de dans un an. Ce monsieur Golan, d'ailleurs, est candidat déclaré d'ores et déjà pour l'élection. Et il y a déjà donc des sondages. Que disent-ils sur ces deux ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ces sondages-là? Est-ce qu'ils conservent une petite assise électorale ou pas du tout depuis la guerre à Gaza?
Alors tout d'abord, quand on parle de faire consensus, il faut comprendre que c'est un processus beaucoup plus long. L'historien israélien Ami Pedatzur a montré très clairement comment les idées de l'extrême droite, donc à la fois du courant kahaniste que représente Itamar Ben-Gvir et le courant sioniste religieux que représente aujourd'hui Bezalel Smotrich, mais aujourd'hui, et on l'oublie très souvent, Naftali Bennett, qui va justement candidater pour les prochaines élections.
Naftali Bennett, qu'on considérait plutôt comme quelqu'un de très très à droite il y a quelques années, qui aujourd'hui est considéré comme un modéré.
Il est toujours très à droite, c'est juste que...
Mais dans le débat public, il est devenu modéré.
Exactement, parce que, bon, il crée des coalitions aussi avec des partis de la gauche sioniste et du centre, mais il est toujours de droite. Il faut rappeler aussi qu'il était le président du Moetzet Yesha, conseil de Yesha, le au Conseil qui représente les colons. Mais donc, quand on parle de faire consensus, il faut comprendre que c'est un processus très long. Donc, Ami Pedatur montre que les idées représentées par ces courants extrémistes ont pénétré très progressivement à la fois dans les partis de la droite, mais même dans les partis du centre et de la gauche sioniste. Et ça, il le montre dans plusieurs ouvrages remarquables. Et pour les prochaines élections, ce qui est intéressant, et pour moi, c'est vraiment un très grand mystère, c'est que Bezalel Smotrich, c'est peut-être, peut-être vous serez d'accord avec moi, Alain Diakov, c'est peut-être l'homme politique qui a réalisé tout ce qu'il avait promis. C'est-à-dire, il a pris contrôle sur l'administration civile, qui est responsable des colonies israéliennes. Il fait progresser l'annexion, la colonisation de la Cisjordanie. Il est très clair sur ses positions. Pourtant, c'est l'homme politique que les prochaines élections, il n'aura pas de siège au Parlement.
Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Oui.
Exactement, c'est ce qu'ils disent les sondages. Pourquoi aussi, et ça, il faut comprendre, parce que même les colons de la Cisjordanie considèrent Bezalel Smotrich un peu trop religieux et un peu trop radical. Et donc, ils vont voter plutôt pour Naftali Bennett, qui aujourd'hui, comme vous avez dit, a l'air un peu plus modéré. Il a un profil un peu plus international. C'est quelqu'un qui parle très bien anglais, qui intervient dans les médias internationaux. Et donc, là, tous les sièges vont aller à Bennett, qui a aujourd'hui 20 sièges quand même au Parlement, ce qui est vraiment un résultat très important.
Bezalel Smotrich, on connaît son programme entre guillemets depuis déjà quelques années. Je crois que c'est en 2017 ou 2019 qu'il est devenu député.
2015,
donc ça fait encore plus longtemps. Il avait fait un petit spot, une sorte de spot de communication que vous avez d'ailleurs diffusé dans votre documentaire Nitzan Perelman, où il dit qu'il s'est très bien emballé dans du papier bulle les chichas et la vaisselle des Palestiniens et qu'il se fera un plaisir de le faire. En janvier 2024, vous aviez assisté à une grande conférence à laquelle étaient réunis 5000 colons autour de Smotrich et Ben-Gvir.
Bonsoir. Sans colonisation, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité autour d'Israël, il n'y a pas de sécurité dans tout Israël. Il y a seulement 3 ans, je disais pour la énième fois que nous devons conquérir à nouveau Gaza. Avec l'aide de Dieu, le peuple éternel gagnera. Allons-y, prenons-en possession et nous en sortirons vainqueurs.
Il faut les encourager à partir. Il est temps de rentrer à la maison et d'accomplir ce que notre Torah dit. Vous conquérirez ainsi le pays et vous vous y établirez. C'est à nous depuis toujours. Mort aux terroristes, tout le monde!
Et pendant que les bombes tombaient à Gaza, ces hommes et ces femmes dansaient autour de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir. Alors jusqu'à quand, Alain Dikoff, a-t-il été inenvisageable en Israël que ce courant-là, extrémiste, suprémaciste, ultranationaliste, obtienne des portefeuilles et que ces deux hommes occupent la place qu'ils ont aujourd'hui, alors que l'un a été disciple, entre guillemets, ou admirateur, parce qu'il s'est rapproché du mouvement après sa mort, du rabbin Meir Kahane, qui prônait la violence?
Alors en fait, c'est ce à quoi on a assisté ces deux dernières années, c'est un peu la conjonction entre deux courants radicaux, mais de nature différente au départ, malgré tout. Il y a le sionisme religieux, qui est un courant très ancien, en fait, hein, qui a été créé officiellement en 1902, donc vous voyez que c'est en diaspora à l'époque. Mais évidemment, le sionisme religieux du début du XXe siècle n'a rien à voir avec le sionisme religieux d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas refaire toute l'historique de ce mouvement, mais disons que il y a eu deux tournants importants. Il y a eu trois époques du sionisme religieux. L'époque pragmatique, qui a duré de 48 à 67, un tout petit peu jusqu'au début des années 70, même en réalité, où finalement le sionisme religieux était simplement un parti d'appoint, où on leur donnait, où les travaillistes, qui étaient le parti dominant, leur donnaient le ministère des cultes ou le ministère de l'intérieur, et en gros leur disaient, bon, vous vous occupez de ça, et le reste, la grande politique, c'est nous qui nous en occupons. Bon, ça, c'était la première période. La deuxième période, c'est au cours des années 1970, après la guerre des Six Jours, lorsqu'Israël entre justement en possession de la Judée-Samarie, de la Cisjordanie, que commence à apparaître une génération plus jeune, de gens qui, en général, aujourd'hui d'ailleurs, sont décédés, hein, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, ils ne le sont plus maintenant, comme Porat, Hanan Porat et d'autres, qui, eux, considèrent 67 comme une sorte d'événement miraculeux qui a permis au peuple d'Israël, peuple juif, de prendre possession des lieux saints qu'ils ne possédaient plus, comme Hébron ou évidemment le mur occidental du Temple. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement du sionisme religieux vers une sorte de progressive de messianisation. Et le phénomène qui est venu un peu plus tardivement, c'est un peu un durcissement finalement de ce courant messianique que je pense a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. En particulier après le désengagement de Gaza, qui a été vécu par les sionistes religieux comme un traumatisme. Et donc, ils se sont durcis,
C'était Ariel Sharon à l'époque, en plus,
C'était Sharon qui avait été le maître d'œuvre. Donc, ils ont le sentiment d'être trahis, en plus, par quelqu'un dès lors. Même s'il n'était pas sioniste religieux, il était quand même patriotique, nationaliste. Et donc, ça a été la troisième phase. Et Smotrich est le représentant de ça, en fait, hein, de ce courant beaucoup plus radical, etc., qui existe aujourd'hui, et qui a fait le lien, je ne veux pas être trop long, et qui a fait le lien avec un courant qui était beaucoup plus souterrain et beaucoup plus limité, qui était le courant kahaniste, qui avait une origine totalement externe à l'État d'Israël, puisqu'il était, il venait des États-Unis, et qui, pendant longtemps, était considéré comme des gens qui n'avaient aucune influence, qui n'auraient jamais de soutien, et qui, pour diverses raisons, mais ça ne pourra peut-être en parler, en effet, ont commencé à grandir et avoir un écho, et jusqu'à trouver finalement un ministre, Ben Gvir, qui les représente.
Notamment parce qu'en 2022, Benjamin Netanyahou a suggéré à Bezalel Smotrich et à Itamar Ben-Gvir de se présenter sur une seule et même liste, et la dite liste a remporté 14 sièges, ce qui a assuré au Likoud un allié important pour gouverner la coalition. Donc on était là dans un calcul politique, Nissan Perelman, mais des passerelles idéologiques, est-ce qu'il y en a aussi entre cette droite-là et celle du Likoud de Benjamin Netanyahou?
Oui, tout à fait. Donc j'ai pu étudier la droite avec ces trois courants, donc le Likoud, le sionisme religieux et le kahanisme. Et on voit depuis le début du XXe siècle des liens entre les courants, donc le courant révisionniste, on dit révisionniste parce que leur objectif était de révisionner le sionisme, le rendre plus militariste, plus nationaliste, parce qu'à l'époque, c'était la gauche sioniste qui a contrôlé le mouvement sioniste.
Donc, beaucoup arrivant d'Europe de l'Est où on était teinté de marxisme, de bolchevisme. Enfin, il y avait une vraie gauche à l'époque sioniste.
Je ne sais pas si je peux dire une vraie gauche dans les, à l'époque où les puissances colonialistes étaient légitimées, effectivement. Mais alors, il y avait le courant révisionniste qui est représenté aujourd'hui le Likoud et le courant sioniste religieux qui, comme Alain Dikoff l'a dit, a été fondé de manière officielle en 1902. Mais je pense que c'est un peu difficile à comprendre les différences entre le courant kahaniste et le courant sioniste religieux parce que tous les deux, ils mélangent des éléments nationalistes et religieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le courant sioniste religieux avait vraiment cette idée de décrire le projet sioniste, donc la fondation d'un État juif en Palestine, comme une étape vers l'accélération de l'arrivée du Messie. Donc, chaque étape, la fondation de l'État, puis en 67, l'occupation de la Cisjordanie et d'autres territoires, c'était réfléchi comme l'accélération de l'arrivée du Messie. Et leur objectif principal, c'était la colonisation. Il s'agit d'un mouvement composé notamment des juifs ashkénazes de la classe moyenne. Le courant kahaniste, donc Kahan, c'était un radical qui arrive des États-Unis et qui voit que ce mouvement existe. Alors il se dit, bon, eux, ils s'occupent de la colonisation, moi, je vais m'occuper de la purification. Et lui, son objectif principal, c'est purifier la terre d'Israël de ses habitants non-juifs, à savoir les Palestiniens. Et ce qu'on voit, c'est que les trois courants entretiennent de liens depuis le début du XXe siècle. Donc, Kahan, c'est un peu plus tard parce que le courant est créé beaucoup plus tardivement. Mais par exemple, on voit comment le rabbin Cook, la figure emblématique du sionisme religieux, influence sur les figures du sionisme révisionniste, du coup du Likoud, pour qu'ils deviennent, par exemple, plus religieux. On voit aussi son fils, donc aussi rabbin Cook, qui soutient Kahan lorsqu'il veut entrer au Parlement. Donc il y a énormément de liens entre ces trois courants et c'est ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui on ne peut pas considérer comme surprenant leur collaboration dans ce gouvernement. Et oui, Netanyahou, il a tout fait pour construire ce gouvernement. Mais il faut se rappeler aussi que les trois idéologies sont liées.
Les trois idéologies sont liées. Alors en tout cas, Itamar Ben-Gvir, on a beaucoup dit qu'il a longtemps gardé accroché chez lui le portrait de Baruch Goldstein, kahaniste qui en 94 a tué 29 fidèles en prière dans la mosquée d'Hébron. Les kahanistes, donc ces disciples du rabbin Meir Kahan, à l'époque, à Lindikov, ils avaient des velléités sécessionnistes. Il s'agissait pour eux de se soustraire à un État trop occidentalisé pour recréer une autre entité purement juive. Or aujourd'hui, on entend le Likoud de Benjamin Netanyahou dire qu'il faut se défaire de l'héritage de Ben Gourion. Est-ce qu'il y a dans ce qui se joue aujourd'hui quelque chose qui échappe à tous ceux qui n'étudient pas comme vous la politique israélienne depuis très longtemps, c'est-à-dire quelque chose qui se joue en termes démographiques, des juifs ashkénazes qui pèsent moins aujourd'hui dans le projet sioniste d'Israël, au détriment des juifs d'Orient, anciennement qui ont subi des discriminations quand ils sont arrivés après 48, mais qui se seraient retournés aujourd'hui contre cette élite-là et contre le projet sioniste de l'époque.
Moi, je pense que la ligne de clivage, elle n'est pas tellement Ashkenaz-Sépharade, en réalité. Cette ligne de clivage, elle existe. Elle a été particulièrement forte dans les années 70, quand il y avait des mouvements de contestation dans les périphéries séfarades de l'époque, en particulier un mouvement qui s'appelait les Panthères Noires, qui était en fait une sorte de mouvement d'imitation un petit peu des Panthères Noires américaines, et qui était donc du coup plutôt de gauche à l'époque.
Qui allait voler les bouteilles de lait devant l'époque. Pour dire que lait coûtait trop cher.
Voilà, il y avait plein de mouvements comme ça. Bon, ils sont jamais devenus violents, en revanche. Enfin, violents au sens utilisation de la force, de la violence physique armée. Tout ça pour dire que je pense que le clivage, en réalité, il est moins Ashkenaz-Sépharade, il est vraiment très clairement entre religieux et ceux qui ne le sont pas, parce que c'est ce qui est frappant, c'est évidemment le rôle de plus en plus important que la religion joue de façon générale en Israël. Donc au-delà des courants qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire aussi avec les ultra-orthodoxes, qui eux sont encore une autre catégorie, le fait évidemment pour nous le plus significatif, parce que c'est ça qui a le plus de conséquences en termes politiques, c'est la politisation de la religion. Donc la politisation de la religion par les sionistes religieux et par les kahanistes, très clairement. Donc là, ça c'est le phénomène qui produit des effets politiques, je dirais presque tous les jours. Parce que c'est en effet le soutien à la colonisation à outrance, c'est même l'organisation dès janvier 2024. Il y a eu un meeting à Jérusalem, qui demandait la recolonisation de Gaza. C'était juste 4 mois après le début de la guerre, donc en janvier 2024. Il y a eu un meeting de ce type-là où, évidemment, les sommités qu'on vient d'évoquer, Smotrich et compagnie, étaient présents. Donc, ça va très loin. C'est toute cette logique. Donc, le phénomène pour moi important, c'est ça. Peut-être un tout petit mot quand même, juste pour une petite précision sur le Likoud. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que le Likoud a changé. Le Likoud d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le Likoud de 1973 quand même aussi. Entre autres parce que même si c'était toujours un courant qui était plus limité, il y avait quand même un courant libéral à l'intérieur du Likoud. Ce courant libéral, il n'existe plus. Il y avait des gens comme Dan Meridor, Roni Milo, qui étaient plus libéraux, je dirais, globalement, moins conservateurs, moins nationalistes. Bon, voilà, tout ça, ça a été balayé et on est vraiment clairement dans ce que Nitzan a décrit.
Donc, un clivage qui se joue aujourd'hui, en particulier, dites-vous, sur la question de teindre ou pas encore un peu plus l'État d'Israël de religion, c'est là que ça se joue, Nitzan Perelman, beaucoup plus que la question du sionisme, voire du colonialisme, parce que c'est un terme qui réapparaît aujourd'hui dans les débats. Alors, beaucoup appellent vraiment à une discussion apaisée sur la colonialité de l'État d'Israël, comme Caterina Bandini, qui est chercheure en sociologie à l'EHESS et qui écrit notamment pour le site que vous avez co-créé avec Thomas Vescovi, qui a écrit « Une cause sacrée, religion, décolonisation, mobilisation pour la paix en Israël-Palestine ». Elle cite par exemple l'anthropologue Patrick Wolf « Dans le cas du colonialisme de peuplement, les colons viennent pour rester. L'invasion est une structure et non un événement. » Est-ce que cette question-là, elle existe encore, notamment à gauche, Nitzan Perelman, ou elle existe tout court ?
Oui, alors c'est très important cette vision que Caterina Bandini fait entrer dans la recherche française et qui manque de la recherche française. Moi, j'ai du mal avec le terme clivage. Je parle d'un spectre sioniste. Il s'agit d'un spectre où on pourra poser tous les groupes sionistes, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, parce que tous ces groupes partagent trois éléments idéologiques communs, à savoir, je dis ça tout de suite, que plus on avance vers la droite, plus ces éléments sont radicaux, audibles, intensifiés, etc. Mais ces éléments sont... 1. L'élément national, qui veut dire que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif, où le peuple juif doit représenter la majorité, les doit tout faire pour préserver cette majorité. Et dans le cadre de l'État, il doit y avoir certains privilèges pour le peuple juif, à savoir le contrôle sur le caractère de l'État, et certains privilèges aussi en matière de citoyenneté, des lois foncières, etc. Le deuxième élément, c'est l'élément religieux. L'élément religieux, même le groupe sioniste le plus séculier possible, va utiliser la Bible, donc un texte religieux, comme acte de propriété, comme preuve que le peuple juif doit, entre guillemets, retourner en terre d'Israël, qui est la Palestine. Et le dernier élément, c'est l'élément colonial qui découle de cet élément religieux, qui veut dire installer centaines de milliers et puis de millions personnes qui ne sont pas originaires de ces terres sur une terre où il y a déjà un peuple et justifier cela par la colonisation ou par la légitimité accordée par l'international. Et donc ces trois éléments, national, religieux et colonial, plus on avance à droite, plus ça intensifie. Mais si on comprend ce spectre, on arrive à mieux comprendre le comportement de la gauche sioniste, on arrive à mieux comprendre tous les éléments communs qui arrivent à faire qu'aujourd'hui Yair Golan peut dire la reconnaissance de l'État palestinien est un danger pour l'État d'Israël. Si on ne comprend pas qu'il y a ces trois éléments qui sont communs aussi à la gauche sioniste, qui sont peut-être moins audibles, mais qui sont quand même utilisés. Donc cette gauche séculière, je ne vois pas une gauche séculière en France qui va utiliser la Bible comme une preuve à quoi que ce soit. Donc voilà ces trois éléments. Et donc il faut vraiment réfléchir la scène politique israélienne, sioniste. Donc j'exclus bien sûr les partis non sionistes ou les partis palestiniens, va être devoir poser sur ce spectre sioniste.
D'ailleurs, on n'entend plus parler des partis des Palestiniens d'Israël, autrement appelés Arabes d'Israël ou Palestiniens de 48. Alain Dikoff, notamment son représentant le plus éminent, avait été écarté un moment parce qu'il s'était réjoui de la libération de prisonniers palestiniens. Que deviennent-ils? Que pèsent-ils? Et quel terrain d'entente peuvent-ils avoir avec la gauche sioniste dont parle Nitzan Perelman? Vous ne serez peut-être pas d'accord avec elle pour dire qu'il y a, selon elle, pas de différence entre la gauche sioniste et la droite sioniste, pour le dire très vite, mais un spectre un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Alors peut-être deux choses. Je répondrai aussi à votre question sur les Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël. Sur la tripartition, je suis pas en désaccord fondamental. Je pense, en revanche, qu'il y a quand même une vraie différence sur deux points. Le premier, c'est que même si, en effet, des groupes de gauche pouvaient faire référence à la Bible comme une sorte de preuve que des Juifs étaient là il y a longtemps, bon, ce qui est vrai, parce que c'est la Bible, c'est quand même le livre qui raconte la saga du peuple juif. Je dirais que pour des gens qui étaient vraiment de la gauche extrême de l'époque, hein, mais à l'intérieur du spectre sioniste, comme Hachemer Hatzair, etc., c'était quand même très très secondaire. Leurs idoles, c'était quand même plutôt Marx, Lénine, que Moïse. Ça, donc il y a quand même eu des différences importantes. Et sur le second point, sur la question de la colonialité, là où il y a quand même une différence, c'est qu'à un moment, une partie de cette gauche sioniste est allée jusqu'à l'idée que même si en principe on devrait pouvoir revendiquer l'intégralité de la terre d'Israël, on est prêt à un compromis avec les Palestiniens. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et je crois qu'il faut pas l'oublier. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là parce qu'il y a eu plein de choses, y compris le 7 octobre. Mais dans les années 90, c'est quand même ça qui était la proposition. Bon, il se trouve qu'elle a pas fonctionné pour tout un tas de raisons, mais il y avait quand même ça sur la table. Et donc je pense qu'il faut jamais l'oublier. Pour répondre juste à votre question rapidement sur les... Alors, les... oui, non, les partis dits arabes israéliens, c'est-à-dire essentiellement le Parti communiste ou la liste arabe, sont toujours là. Ils sont présents, mais bon, il faut savoir qu'ils ont à peu près 10 députés, donc ils pèsent pas lourd. Mais le phénomène, en revanche, qui me paraît intéressant, puisqu'on essaie aussi de trouver un peu les nouveautés, peut-être aussi un petit peu que finalement les notes d'espoir, c'est que vous avez quand même, au sein de la société civile israélienne, donc incluant à la fois des juifs et arabes, des mouvements dans la société civile qui sont ouvertement judéo-arabes aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un phénomène que je trouve intéressant, qui est peut-être un des rares motifs d'espoir. Je pense par exemple à Standing Together, mais il y a d'autres partis. C'est, alors évidemment, c'est pas les larges masses, mais c'est quand même un phénomène qui est pas négligeable. Et si on essaye quand même de trouver aussi des choses parfois dans tous ces décombres qui soient un tout petit peu plus positives, je pense que ça en fait partie.
Et notamment, parce que la société civile israélienne, Nitzan Perelman, c'est vrai qu'elle a pris beaucoup de place ces dernières années. Et surtout depuis le 7 octobre, encore là très récemment, ces centaines de milliers d'Israéliens déferlant dans les rues pour, en l'occurrence, dire non ou stop à l'offensive sur Gaza City. Est-ce que d'une certaine façon, les partis de gauche ont fini par être court-circuités par ces mouvements-là ?
Ah, complètement. Moi, je vois vraiment un changement depuis 5 années en ce qui concerne l'équilibre entre les partis politiques et la société civile. Parce qu'il faut comprendre que la société civile israélienne, c'est pas du tout comme en France. Il n'y a pas cette tradition vraiment de manifester. Bon, on voit le camp de la paix qui manifeste. Mais après, la société civile était assez silencieuse et c'était vraiment les partis politiques qui ont défini le ton. Mais ce qui se passe depuis 5 ans, donc on voit d'abord les manifestations contre Netanyahou devant sa maison. Après, on voit les manifestations contre la réforme judiciaire, puis on voit les manifestations, attention, pas pour l'arrêt de la guerre, mais pour la libération des otages, qui activent la société civile qui sort presque toutes les semaines dans les rues pour manifester. Et ce que je vois en commun avec toutes ces manifestations de la société civile, c'est toujours cette limite de la question palestinienne. Et c'est ça qui est intéressant de voir, cette continuité. Il y a toujours quelque chose qui manque. On ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, si je peux dire comme ça. Et chaque fois, on refuse. Donc, pendant la manifestation contre la réforme judiciaire, on a refusé de parler de l'occupation. On a même refusé de parler de l'égalité avec citoyens palestiniens d'Israël. Donc, ce qu'on dit palestiniens de 48.
Qui reste dans une forme d'infériorité juridique et politique. En tout cas, ça a été institutionnalisé.
Complètement. Et pas que depuis 2018, pas que depuis la loi sur l'État-nation, mais depuis 48. Et on voit aussi, là, avec les très grandes manifestations pour la libération des otages. Donc là, on parle de l'arrêt de la guerre parce qu'on comprend que c'est la seule solution, tout simplement. On comprend que c'est pas l'armée qui va libérer les otages, mais l'arrêt de la guerre. Mais on ne parle pas du tout des Palestiniens, ni du génocide, bien évidemment.
Vous avez filmé un citoyen israélien, dont la cousine Carmel Gatt a été prise en otage par le Hamas. Alors, il arrive au Parlement au moment où Itamar Ben-Gvir organise une discussion sur la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on en parle plus tard, pas tout de suite, parce que là, les otages sont en danger.
Quelques minutes avant que la discussion commence, j'ai croisé Ben-Gvir par hasard. J'ai tenu cette pancarte avec la photo de Carmel. Je lui ai dit, Itamar, ma cousine est otage en ce moment. La discussion que vous organisez va mettre sa vie en danger. S'il vous plaît, pas maintenant. Et il m'a caressé la joue comme ça. Et il m'a dit, je vais le faire quand même. Alors que la discussion se termine, Itamar Ben-Gvir se lève, marche vers moi et me serre dans ses bras. Je lui ai tout de suite dit de ne pas me serrer dans ses bras. Et il m'a serré plus fort. Il m'a embrassé sur la tête. Il m'a dit « Je t'aime ». Les extrémistes exploitent cyniquement les familles d'otages pour que le chaos s'étende. Et dans le but d'en tirer un profit politique.
La cousine de ce jeune homme, Carmel Gatt, a depuis été tuée par ses ravisseurs. Son corps a été retrouvé le 31 août 2024 par des soldats israéliens dans un tunnel de Gaza avec ceux de 5 autres otages. Votre film, Nitzan Perelman, lui est dédié. Alain Dikoff, peut-être pour conclure cette première partie de discussion, on a entendu, même si vous avez quelques désaccords à ce sujet, qu'il y a eu un sionisme socialiste des kibboutz et que la question du sionisme n'est pas une ligne de fracture entre les responsables politiques aujourd'hui. En revanche, la question du nationalisme, Quel sens prend-elle en Israël? Est-ce que ça a même un sens de parler de nationalisme? Pourquoi parle-t-on d'ultra-nationaliste concernant ces deux ministres, dont Itamar Ben-Gvir qui caresse la joue du cousin du notaire?
Moi, je pense que tout simplement, la différence, c'est que justement, on est quand même dans une logique où il y a dégradation. C'est-à-dire que le sionisme, c'est très clairement un nationalisme, dans le sens pas, je dirais, négatif nécessairement. C'est-à-dire tout simplement l'idée qu'il faut qu'il y ait une émancipation nationale du peuple juif. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, les ultranationalistes là-dedans, c'est quoi? C'est en effet des courants qui partagent aussi cet objectif, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils considèrent, entre autres, et ça c'est un point quand même central, qu'il faut que l'intégralité de la terre d'Israël soit sous souveraineté juive. Et là, il y a eu pendant longtemps quand même un clivage important entre la gauche et la droite, et je pense qu'il continue à exister, même si évidemment cette gauche, elle s'est elle-même beaucoup recentrée, ça c'est, il n'y a pas de doute là-dessus, ça c'est lié à des dynamiques en profondeur de la société israélienne.
Nitzan Perelman, est-ce que tous ont la même vision de ce qu'est Israël, la nature même de son identité en tant qu'État, identité manifestement si difficile à définir qu'Israël n'a pas de constitution, toujours pas, ou pas du tout. Je ne sais pas s'il faut dire toujours pas, s'il cherche à en avoir une ou pas.
Oui, alors en ce qui concerne la constitution, il y a des différences, mais si on parle d'ultranationalisme, si on prend mon idée de spectre, c'est très clair. Le sionisme, c'est un type de nationalisme. Et donc, les ultranationalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent jusqu'au bout l'idée nationaliste, donc ils considèrent que l'aspect juif de l'État doit être renforcé, ainsi que les privilèges. Ils considèrent que l'aspect religieux doit être renforcé, c'est-à-dire que la religion doit être impliquée davantage dans le système de l'État. Et l'aspect colonial aussi doit être renforcé, à savoir, il faut coloniser pas que les frontières de 48, mais il faut aller au-delà. Et Bezalel Smotrich, ce qu'on montre dans notre film, qu'il a l'idée maximaliste, la vision maximaliste de ces terres bibliques d'Israël, qui va au-delà de la mer au Jourdain et qui contient aussi le Liban, la Syrie, des parties de l'Irak, etc. Et donc, il faut vraiment réfléchir en termes de spectre. Ultranationaliste, c'est ceux qui veulent pousser davantage dans le sionisme, qui est un type de nationalisme, ces trois éléments, religieux, colonial et national. Et donc, quand Alain Diakov a parlé des années 90, on parle tout à fait des accords de paix. On ne parle pas du tout, d'ailleurs, de l'occupation israélienne, des crimes qu'Israël commet en Cisjordanie, notamment depuis 67 avec l'occupation militaire. On ne parle pas non plus, bien sûr, des réfugiés palestiniens qui attendent toujours avec leurs clés pour revenir à la maison. Donc, on parle de paix, mais on ne défait pas l'idée coloniale de base du sionisme.
Alain Dikoff, un petit mot pour conclure à ce sujet-là.
Non, mais je pense qu'on n'est pas fondamentalement en désaccord. En réalité, là où il y a toujours pour moi quand même une spécificité du cas qui nous intéresse ce matin, c'est que justement la difficulté, c'est que ce mouvement qui était un mouvement national dans la façon dont il s'est translittéré, dont il s'est concrétisé, il ne pouvait pas quelque part faire l'économie d'une logique de colonisation, de peuplement. Et d'ailleurs, c'était tout à fait ouvertement admis par les sionistes eux-mêmes. La banque qui aidait aux premières implantations au début du siècle, c'était la banque coloniale juive. Donc, parce que la colonisation, ça veut dire simplement, on vient de chez nous, à l'époque c'était la diaspora, et on s'installe aussi chez nous, quelque part. Comme on est minoritaire, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ait cette logique de développement, de colonisation.
Théodore Herzl, d'ailleurs le père du sionisme, écrivait dans L'État des Juifs en 1896 qu'Israël sera un bastion avancé de l'Occident au cœur de la barbarie orientale. Et ce sont des mots, alors avec d'autres termes, mais que Ehud Barak, c'est ça l'ancien premier ministre israélien, travailliste, reprend Nitzan Perelman, alors avec d'autres mots, une villa,
dans
la jungle. Voilà, c'est ça, il parle de villa dans la jungle aujourd'hui en parlant d'Israël. En tout cas, le rapport à l'État est nécessairement ambigu, puisque c'est Danny Traum, directeur de recherche au CNRS, qui écrivait dans son livre « L'État de l'exil, Israël, les Juifs, l'Europe » début 2023, que comme les Juifs se pensent comme structurellement minoritaires partout où ils sont, la possibilité qu'ils soient tous rassemblés dans un État est tout simplement contradictoire, et c'est pour ça qu'Israël est un État dont la nation n'est pas
par définition jamais complète. Jamais la Knesset ne se réunira un jour en disant « nous sommes au complet », parce que la définition, selon le schéma de l'exil, les Juifs sont à l'extérieur de l'État et l'État est encore en attente de vagues migratoires à venir. En tout cas, vous écoutez Culture Monde, c'est le premier épisode de notre série « Où va Israël ?» Aujourd'hui, la démocratie sous l'emprise des ultranationalistes, différents des ultra-orthodoxes, autre ligne de fracture qui divise la classe politique en Israël, l'intégration des ultra-orthodoxes à l'armée.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Seul Dieu nous protège, c'est ce que je crois. Vous croyez peut-être que l'armée vous protège, ce n'est pas le cas. Et donc, nous ne rejoindrons pas les rangs de l'armée.
Comment justifier aujourd'hui du statut d'exception dont les Israéliens les plus rigoristes et orthodoxes dans leur judaïsme bénéficient toujours, comme cet homme rencontré par ETV5 Monde l'été dernier, face aux injonctions de la Cour suprême de faire voter une loi pour mettre fin à cette exemption considérée comme d'autant plus indue depuis deux ans, le parti chasse a quitté la coalition. Bonjour Marius Schattner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur d'Israël, l'autre conflit laïque contre religieux paru en 2008 et vous avez coécrit plus récemment Sous tes pierres, Jérusalem avec Frédéric Chilo paru chez Plon en février. Les communautés ultra-orthodoxes, peut-être un mot à ce sujet, elles ont aussi compté leurs morts le 7 octobre 2023. Combien de victimes ont-elles déploré parmi les leurs et où en particulier ?
Oh, ça, on ne sait pas, je veux dire. On comptabilise pas quand même les morts selon ils sont ultra-orthodoxes ou pas. Il y a eu des victimes parmi eux dans les villages qui avoisinent la bande de Gaza où il y a une population assez pauvre et plutôt religieuse.
Donc du côté de Sderot, par exemple.
Elles ont subi le choc comme tous les autres Israéliens.
Au nom de quoi ces religieux qui se sont mobilisés à leur manière juste après le 7 octobre, qui sont allés porter secours à la population civile, mais sans combattre, au nom de quoi sont-ils aujourd'hui encore exemptés de service militaire ?
Au nom d'un accord qui avait été signé à la création de l'État entre Ben-Gourion et les partis alors ultra-orthodoxes, qui étaient très très minoritaires et qui donnaient des exemptions à plusieurs centaines de jeunes qui suivaient des études dans des yeshivot, dans des séminaires talmudiques. Le problème, c'est que ces plusieurs centaines se sont transformées en dizaines de milliers. Il y a aujourd'hui près de 80 000 orthodoxes qui seraient ultra-orthodoxes, qui seraient enfin ou religieux très 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 durs, qui pourraient être appelés sous les armes. L'armée demande uniquement qu'il y en ait 12 000 et pour le moment il y en a que 2 000 et il y a une opposition très très forte des rabbins pour non seulement qui s'oppose non seulement à ce que des jeunes qui soient dans des écoles religieuses aillent à l'armée, mais même ceux qui font les 400 coups, qui quittent les écoles, qui sont pas considérés officiellement comme maintenant des élèves, eh bien eux aussi doivent pas aller à l'armée. C'est quelque chose qui est très 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 difficile à accepter pour la majorité des Israéliens.
Des ultra-orthodoxes qui disent par exemple que l'idée même de creuset, on parle souvent de l'armée israélienne comme d'un creuset de la société, l'idée même de creuset leur fait peur. L'armée a été pensée pour construire un citoyen israélien nouveau et que eux, s'ils envoyaient leurs garçons dans l'armée, alors ils disent, invariablement on entend dans les quelques entretiens qu'ils donnent, que leur fils reviendrait homosexuel ou qu'ils auraient accès à Internet, parce que eux, manifestement, ont très peu accès à Internet ou ils ont des téléphones différenciés. Une blague en Israël raconte que les ultra-religieux ont deux téléphones, un parce qu'il est cachère et l'autre pour s'en servir. C'est ce qu'un responsable disait à Mediapart. Alors, Marius Schattner, en juin 2024, la Cour suprême a statué sur leur enrôlement, a décidé que les ultra-orthodoxes devaient, comme tous les autres Israéliens et Israéliennes, effectuer un service obligatoire. C'est ça qui a créé des dissensions en juin et poussé le parti Chasse à quitter la coalition gouvernementale qui devait s'atteler à un texte. Que représente Chasse ? Chasse, ce parti-là, ce sont les orthodoxes séfarades. Il y a toujours eu des ultra-orthodoxes chez les juifs arabes ?
Oui, les juifs d'origine du monde arabe ou de l'Orient. Une précision, le Chasse n'a pas quitté la coalition. Il a quitté le gouvernement. Il reste dans la coalition.
Ah oui, à la Knesset, il reste dans la coalition, bien sûr.
C'est un acte plutôt symbolique parce que, à la place des ministres du Chasse, on n'a pas nommé d'autres ministres et ce sont les ministres adjoints qui sont du Chasse qui sont toujours là. Alors, c'est une, je veux dire, c'est, il veut être dans l'opposition et en même temps être au pouvoir. C'est une grande ambiguïté.
Il y a toujours eu des ultra-orthodoxes chez les juifs d'Orient?
Non, c'est un phénomène nouveau. Même l'idée d'ultra-orthodoxe est un phénomène nouveau. Les juifs des pays arabes ou des pays d'Orient, pas forcément l'Orient, le Maroc c'est pas tout à fait l'Orient, avaient des traditions, disons, moins extrêmes, moins radicales que celles des juifs d'Europe de l'Est, qui forment la base des ultra-orthodoxes. Mais d'une façon très très paradoxal, le mouvement Chasse a été un mouvement au départ de contestation à l'intérieur du monde religieux, parce que il y avait chez des juifs, chez ce qu'on appelle séfarades, un sentiment assez justifié d'ailleurs d'être discriminé par l'établissement ashkénaze, et voulaient reprendre leur religion en main. Mais d'une façon paradoxale, en le faisant, ils se sont alignés complètement sur les pratiques des institutions ashkénazes, jusqu'à en prendre l'habit.
Jusqu'à en prendre l'habit.
En même temps, voilà. C'est une révolte intérieure où ils ont adapté finalement les modes du judaïsme et de l'ultra-orthodoxie.
Oui, pardon, on arrive à la fin de cet entretien, Marie Chatner, veuillez m'excuser, je voulais juste savoir en quelques mots, on a bien compris que le départ du parti Chasse n'a pas changé quoi que ce soit dans les équilibres politiques, puisque ce n'était qu'une rupture de façade, et le parti continue à soutenir la coalition. Quel partenaire est-il sur les questions qu'on a évoquées, que ce soit la guerre à Gaza ou des questions plus sociétales? Est-ce que il a des positions similaires à celles d'Itamar Ben-Gvir ou de Bezalel Smotrich?
Pas du tout. Je veux dire, il est certain que si demain il y a un accord qui est imposé à Israël par les États-Unis d'en finir avec cette horrible guerre de Gaza, il est certain que les ultra-orthodoxes l'appuieront. Mais en revanche, ils ne feront rien pour forcer eux-mêmes le gouvernement.
Ils n'ont pas toujours été d'accord, notamment sur l'esplanade des mosquées. Ils ont désapprouvé les opérations de Ben-Gvir qui brave l'interdiction et se rend sur place en provocation. Merci beaucoup, Marie Chatner. Sous tes pierres, Jérusalem, avec Frédéric Chilo, apparu chez Plon en février. C'est un livre que vous avez coécrit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alain Dikoff, comme vous parlez beaucoup des ultra-orthodoxes dans votre chapitre du livre Radicalité religieuse, qu'est-ce que vous souhaitiez ajouter à cette discussion?
Il y aurait tellement de choses à dire. Je dirais simplement, non, Marius Chatner a très bien expliqué, en effet, l'émergence d'une ultra-orthodoxie séfarade. Je dirais simplement, pour rattacher cette question à la réflexion qu'on a eue ensemble autour de la question de l'État, c'est que dans le fond, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que les ultra-orthodoxes, ils continuent à se considérer en exil, même s'ils sont en Israël. C'est ça qu'il faut fondamentalement comprendre. Donc, il se comporte en Israël comme il se comporterait à Brooklyn ou à Anvers ou dans d'autres quartiers où il y a des communautés orthodoxes importantes. Donc, pour eux, être à Bnei Brak ou à Mea Shearim, à Jérusalem, c'est la même chose. Ils sont en exil. L'État d'Israël n'a pas de signification religieuse pour eux. C'est un État. Ils fonctionnent là-dedans. Et voilà.
Merci beaucoup, Alain Dikoff. Vous en parlez dans le chapitre que vous signez dans le livre que vous avez dirigé, Radicalité religieuse au pluriel, au cœur d'une mutation mondiale, paru chez Albin Michel, ou qui va paraître, pardon, dans quelques jours. Merci beaucoup, Nitzan Perelman, cofondatrice du site Yahani. Votre documentaire Israël, les ministres du chaos, est toujours en ligne sur le site d'Arte. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Catherine, vous nous parlez des Seychelles ce matin, au lendemain du premier tour de la présidentielle.
Ce sont des empreintes sur une longue étendue de sable blanc qui ont retenu mon attention ce matin. La classique carte postale qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les Seychelles et qui illustre d'ailleurs un article de la BBC. Beaucoup plus intéressant, l'envers du décor. Cet archipel de l'océan Indien se trouve sur une route du narcotrafic entre l'Afghanistan et l'Afrique de l'Est, ce qui a contribué à l'un des taux d'addiction à l'héroïne les plus élevés au monde. Jusqu'à 10% des habitants des Seychelles sont toxicomanes, rapportent The Independent et ABC News dans ce pays de 120 000 habitants. Les autorités ont d'ailleurs saisi près d'une tonne et demie d'héroïne, de cannabis, note le quotidien The Seychelles Nation. Le président sortant, Wevel Ramkalawan, est accusé de ne pas avoir endigué cette crise de la drogue et l'opposition vient de remporter ce week-end les législatives, même si son chef de file, Patrick Hermini, n'a pas davantage brillé lorsqu'il dirigeait l'Agence nationale pour la prévention de la toxicomanie, analyse IMAS Press, agence de presse réunionnaise. Les deux hommes se retrouveront au second tour de la présidentielle du 9 au 11 octobre prochain, annonce PBS News.
Autre enjeu majeur de ce scrutin, la construction d'un complexe hôtelier qatari.
Tout près d'une réserve marine mondialement connue, alerte le Washington Post. Et une petite île presque déserte est devenue un champ de bataille électorale, raconte la BBC. L'île de l'Assomption, dans le sud-ouest des Seychelles, ne possède pas grand-chose à première vue, ravagée par le guano. Elle se trouve à un millier de kilomètres de Mahé, l'île principale la plus peuplée des Seychelles, très touristique. Pourtant, cette île tropicale atypique est devenue un haut lieu pour les puissances géopolitique et pour les écologistes ainsi qu'un paratonnerre politique aux Seychelles, détaille la BBC, ravivant des questions de souveraineté. L'Inde a souhaité construire une base militaire sur l'île de l'Assomption, mais son projet a été repoussé. En revanche, le gouvernement actuel a décidé de louer une partie de l'île de l'Assomption à une société qatari, indique le Washington Post. Un complexe hôtelier de luxe exclusif de 40 villas doit y être construit, doté d'une piste d'atterrissage, capable d'accueillir des jets, des avions d'affaires à l'abri des regards indiscrets, précise la BBC. Les défenseurs de l'environnement sont vent debout, car l'île de l'Assomption possède l'une des plus longues plages des Seychelles, servant de lieu de nidification pour les tortues, et c'est aussi la porte d'entrée de l'atoll d'Aldabra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappelle la BBC. C'est l'un des écosystèmes les plus intacts et les plus fragiles au monde. Il abrite 400 espèces unique. Des écologistes disent à la BBC avoir déjà vu une carapace de tortue brisée par un engin de chantier. Le président sortant des Seychelles assume et il affirme auprès de la BBC que l'archipel a besoin d'investissements et d'hôtels Hilton pour survivre. Un recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle des Seychelles pour arrêter ce projet controversé. Il pourrait bien aider l'opposant Patrick Hermini à accéder au pouvoir alors qu'il a fait campagne pour assainir la politique et en finir avec la corruption endémique qui avait marqué, rappelle la BBC et le Washington Post, les 30 ans quasiment de présidence de France-Albert René jusqu'en 2004.
Aux États-Unis, Catherine Dutu, la presse ressent encore des répliques de l'inculpation de James Comey.
L'ancien chef du FBI, dans le collimateur de Donald Trump, pour avoir enquêté sur d'éventuelles ingérences russes dans l'élection de 2016. Le Washington Post craint que l'ire présidentielle ne s'abatte désormais sur tout opposant politique aux États-Unis. Et Axios note d'ailleurs que Donald Trump a signé jeudi dernier un mémorandum présidentiel sur la lutte contre le terrorisme intérieur et la violence politique organisée, une manière pour CNN de cibler la gauche et les donateurs du parti démocrate pour canaliser aussi la colère suscitée par l'assassinat de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk. Le Washington Post alerte sur un changement de culture au sein de l'administration états-unienne. Le président cible les procureurs de carrière qui croient encore aux normes. Il fait appel à des personnes inexpérimentées car pour se débarrasser d'une certaine culture, il faut se débarrasser de certaines personnes. Risque accru avec la menace d'un shutdown dès demain soir, une paralysie budgétaire de l'État fédéral. La Maison-Blanche menace de licencier massivement des employés, rapporte Politico, si les démocrates n'approuvent pas le budget républicain.
We will not support this partisan Republican spending bill because it continues to gut the healthcare of the American people.
Nous ne soutiendrons pas le budget républicain car il continue de saper le système de santé pour la population américaine, a prévenu Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. La Maison-Blanche brandit, elle, donc, la menace de licenciement en cas de shutdown, note le Time Magazine, au-delà des 100 000 employés, rappelle le Guardian, qui doivent officiellement démissionner demain au nom de l'efficacité gouvernementale prônée en son temps par Elon Musk.
Merci beaucoup Catherine Dutu.